Tata boom. Bonjour, bonjour et bienvenue dans la 66e édition de Tatapoum. Tatapoum, une émission où on écoute, où on débat autour de l'actualité plus ou moins fraîche, du punk, du rock, du garage et autres musiques bruyantes. Et c'est un joyeux anniversaire que nous allons fêter ce soir, puisque pour la dernière émission de l'année, nous allons fêter notre 66e émission, puisqu'on a commencé en mars 21. Du coup, ça fait pas vraiment un anniversaire, tant pis. Tant pis, bon anniversaire quand même à Tatapoum. C'est chaque fois un plaisir renouvelé de faire cette émission avec vous. Ce soir, le gros gâteau du rock'n'roll verra sur lui se poser les bougies. Et les bougies, ce seront Bibi, Guillaume, Mathieu, Cédric, Arnaud et Marion. Ça se fera sans Héloïse, qui à l'heure actuelle gratte sa guitare dans un studio d'enregistrement à la chaleur caniculaire. Alors ce soir, avec Tatapoum, on ira depuis la Californie, on passera par Nancy, Dublin et on terminera à Melbourne, parce que ce soir on parle de Ezra Furman, de Rancœur, de Mail et de Iron Mind. On va commencer avec Ezra Furman qui vient de sortir un album Goodbye Smilehead par Ezra Furman, et Guillaume nous en a sélectionné un premier extrait, You Mustn't Show Weakness. Show weakness, not with all the good girl and boyfriends watching you. You mustn't show weakness. There's a veil now descending and it's covering over my face. In the night, there's a light in the sky that I can't reach out and touch, no matter how much I try. And I mustn't show weakness. And I mustn't. No, I mustn't look ill. Ezra Furman et sa voix reconnaissable entre toutes, c'est Guillaume qui nous parle de... qui nous en parle.
Oui, nous avons un problème à Tatapoum. Nous programmons dans une proportion jugée importante davantage de groupes comprenant des hommes que de femmes. On se fait régulièrement ce constat, on essaye bien de corriger le tir tout au long de la saison, mais la balance demeure inexplicablement négative, peut-être serions-nous tout simplement empreints de biais sexistes dans nos goûts musicaux, à l'insu de notre plein gré. Toujours est-il qu'un peu précipitamment, quand arrive la dernière émission de l'émission de l'année, Pierre, l'animateur en chef, se fait un devoir de rééquilibrer les choses. Ainsi, étions-nous partis pour vous parler du dernier album du jamais décevant Ty Segall, quand il a été jugé plus judicieux de lui choisir celui de Ezra Furman. Il faut dire que musicalement, l'un et l'autre ne sont pas si éloignés. Ils s'inscrivent dans la longue et riche tradition des songwriters états-uniens, empruntant de forts accents rock et creusant dans les sillons de l'intime davantage que ceux de la politique. Ezra Furman est né en 86 et a grandi à Chicago, où elle se destinait à devenir rabbin. Mais c'est finalement sa fibre musicale qui a pris le dessus, puisqu'elle a formé à la fac son premier groupe, Ezra Furman and the Harpoons, dont le premier album est sorti en 2006. Dans une filiation proche des Violent Femmes, la formation dura 5 ans. Furman, devenue femme trans, se lancera alors dans une carrière solo qui se prolonge aujourd'hui avec la sortie de son 7e album, Goodbye Smallhead, chez Bella Union, le label anglais du Cocteau Twins, Simon Raymond. Je connaissais vaguement son travail grâce aux bonnes critiques qu'elle recevait du magazine en ligne Pitchfork, mais je ne m'étais jamais vraiment arrêté sur un de ses albums. En prenant le temps d'écouter ce Goodbye Smallhead, je peux dire que elle m'a fait une très bonne impression, même si elle est loin d'être au sommet du genre, on va dire. Les 12 morceaux qui le composent sont assez unis et cohérents. La qualité de composition démontre un savoir-faire. Furman sait façonner des chansons convaincantes. Et musicalement, les morceaux sont pour la plupart dans le registre de la ballade, on va dire, avec des envolées rock régulières. On notera que 8 d'entre eux sont accompagnés d'une discrète mais bienvenue section à cordes. De même, on y entend parfois de légers samples. C'est bien davantage la dimension personnelle et propre au songwriting qui donne la couleur au disque. La plupart des morceaux se déploient dans une atmosphère douce où le chant susurré de Furman se montre touchant, comme sur le morceau Strange Girl. Sa voix légèrement éraillée n'est pas pour rien dans la bonne impression générale que l'on peut ressentir. Mariée avec une très bonne orchestration, elle réussit à imposer l'album et place Furman dans la continuité de ce qu'ont pu faire des personnes comme Beth Orton, hein, qu'on reconnaît un petit peu dans le style sur Power of the Moon, la chérie Bibi à moi, la suédoise Fridi Ivonen, que j'adore, Sharon Van Etten aussi, qu'on peut reconnaître sur A World of Love and Care, Perfume Gymnus pour le côté un peu plus expérimental de certaines de ses compos, et voire même Patti Smith, hein, comme on peut, sur le très bon et dernier morceau I Need the Angel qu'on va entendre. Ezra Furman s'inscrit dans cette convaincante longue tradition du rock, et sans être brillant, celui-ci, donc cet album, s'écoute sans déplaisir, et s'il n'était quelques morceaux un peu faiblards comme Slow Burn, je le recommanderais aisément.
Cédric.
Oui, bah alors moi j'avais quand même beaucoup aimé, j'avais même adoré l'album précédent, All of Us Flames, qui était sorti il y a 2-3 ans, et qu'on retrouve ici, on en retrouve ici quelques caractéristiques, hein, le côté glam débraillé, écorché, désespéré, une sorte de lyrisme sous adrénaline, un désespoir qui respire la vie et l'envie, quoi, en gros. C'est une sorte de Muse qui serait pas vulgaire et qui chercherait pas à faire des stades, quoi. En gros, une sorte de Muse qui serait pas les Muse, quoi. En gros. Avec une production ici plus dépouillée, cet album m'a un petit peu moins convaincu, même si j'apprécie toujours bien, quoi. Mais je suis un peu moins porté par les ballades plus apaisées, comme sur Sudden Storm, par exemple, qui a un air, je trouve, déjà entendu il y a déjà depuis longtemps, et je préfère des titres plus enlevés comme A World of Love and Care, où la voix elle est beaucoup plus mise en avant, elle exprime comme rarement une forme de déchirure qui est vraiment assez impressionnante, ou encore un des derniers titres, I Need the Angel par exemple, qui commence comme une ballade mais qui se déporte assez rapidement dans le titre et qui amène la mélodie vers des territoires plus nerveux. Je trouve que les paroles sont toujours, par contre, au rendez-vous, hein, dans l'introspection, dans la mise à nu, avec une vocation universelle. Et puis, ça m'empêchera évidemment pas du tout, au contraire, de retourner la voir en concert. C'est d'une rare intensité. C'est une sorte de cure de jouvence pour des vieilles personnes comme nous. Ça fait vraiment un bien fou.
Mathieu, cure de jouvence.
Pour les autres, oui, sans doute. Pas vraiment pour Bibi, hein, parce que moi, ma première envie à l'écoute de cet album, c'est d'envoyer à Ezra Furman l'adresse d'un bon ORL, histoire de faire disparaître cette voix nasillarde qui me rappelle le pire de Bob Dylan.
Non.
Par ailleurs, la volonté d'aller piocher dans beaucoup de râteliers, comme par exemple du côté de The Otters pour le meilleur, mais toujours avec une volonté putassière de répondre aux injonctions actuelles des sonorités branchées, ben, ça m'empêche de succomber totalement aux quelques bons morceaux que l'on retrouve ici ou là sur l'album. Pour le reste, c'est parfois pompeux, mais je citerai les morceaux Veil Song ou You Hurt Me, I Hate You. Et pour moi, régulièrement chiant, en fait. En bref, tout le monde n'a pas le talent de Luke Haynes, et Ezra Furman, assurément pas.
Non, non, mais je te suis pas du tout. Moi, je trouve que c'est un, c'est vraiment un très bel album. Alors, Ezra Furman, c'est pas, pour moi, c'était pas une découverte. Ça fait plusieurs années qu'elle sort des albums qui sont toujours intéressants, dont certains m'ont beaucoup marqué. Il y avait un album en 2019 qui s'appelait 12 Nudes, dont l'énergie rageuse m'avait ravi. Mais moi, par exemple, il y a une partie des titres de cet album qui font encore partie de ma playlist. Que j'écoute régulièrement. Et alors, sur son site, elle dit qu'il y a des phases dans sa musique. Et là, elle classe cet album dans sa trilogie antifasciste. Donc ça s'appelait 12 Nudes. C'était vraiment. Vraiment plus rock, plus violent. Elle a pas gardé la même rage de celle de ses premiers albums. Alors on est parti sur quelque chose de plus élégant, de plus distancié, mais elle sait encore s'agacer, quoi. Elle sait encore nous prendre et nous retourner quand la voix s'emporte et que l'orchestration, enfin Guillaume l'a dit, c'est vraiment très très bien fait, qui suit derrière, participe à tout ça. Cette voix est géniale, Mathieu. Cette voix est géniale. Il y a tellement de choses dedans. Il y a tellement de nuances. Il y a tellement.
Ah oui, c'est vrai.
il y a tellement de capacités à la transformer pour la mettre au service des textes qu'elle a écrits. Moi, je suis étonné de tes critiques. Mais bon, la mauvaise foi n'étant pas interdite autour de ces micros, certains en abusent. Il y a des moments, voilà. Il y a des moments en calme, peut-être un peu trop dans cet album. Mais je trouve qu'il y a en permanence un truc d'une espèce d'inquiétude, d'une colère qui vient malgré tout transcender ces moments de faux calme. Et ça m'a fait penser, moi, à des paroles d'Anne Sylvestre. Je sais pas comment j'ai fait l'association. Dans sa chanson « Une sorcière comme les autres », elle dit « J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi, je peux. » Et c'est peut-être que derrière ces moments de calme, voire presque tendre, se cache une tempête qui peut nous renverser à tout moment. Voilà. Alors, parmi les influences dont tu parlais, il y a Strange Girl. Alors pour moi, Strange Girl, c'est une référence quasi explicite à la chanson Strange Fruit, une splendide chanson interprétée par Billie Holiday qui parle de ces étranges fruits que sont les noirs lynchés qui pendent aux arbres. La proximité de la mélodie et des harmonies qui composent cette chanson, je pense, ça peut pas être un hasard. Et j'ai vraiment eu, je pense qu'il y a là, alors j'ai pas trouvé ça putassier, moi j'ai trouvé ça un élégant hommage à cette chanson. Il y a tout ce que vous avez dit. Il y a à travers chacun de ces albums le récit d'un cheminement, de la question du genre, de l'identité sexuelle. Il y a une artiste qui se bat avec ses doutes et ses dépressions. Savoir mettre en musique ça, la dépression, il y en a pas beaucoup qui arrivent. REM, Fontaine d'Essay ou Petula Clark, tu vois, ça veut dire à quel point ça la place haut avec cet album. Et comme disait Bibi juste avant cette émission, bon bah le rock, il doit pas se départir de sa tendresse, quoi. Même au cœur du pogo, même quand les guitares saturent, même quand la bière et la sueur coulent par litres, il faut qu'on sente un peu d'amour, sinon on s'emmerde. Hein, Arnaud?
Arnaud, il connaissait pas Ezra Furman, ou alors très très peu. J'avais dû peut-être tomber sur des morceaux. Il y a quelques albums, je crois que tu l'as dit, c'est avec glam un peu, et je crois que ça m'avait pas forcément accroché. Donc j'avais passé mon chemin, et j'étais assez étonné que, parce que je connais un peu quand même vite fait cet artiste, mais j'étais un peu étonné qu'on le propose en premier, notamment à Tata Poum. Alors j'ai compris, Guillaume, le jeu choix, et c'est un très bon choix, et moi j'ai beaucoup aimé. Je vais t'en rajouter, Mathieu, des références qui vont te plaire. Je peux comprendre pourquoi t'as détesté. Moi j'ai pas forcément les mêmes que vous, mais donc non, moi je trouve ça très très joli. C'est jamais plombant, ça tombe pas dans la niaiserie. contrairement à toi, Mathieu, je trouve que c'est plutôt.
On a dit pas d'attaque personnelle.
Non, je trouve ça bien. Ouais, ce que j'aime bien, c'est les violons, et en fait, ils sont pas trop prégnants. C'est ça que j'avais pas trop aimé sur certains albums précédents. C'est quand même une très bonne songwriter, une très bonne compositrice. Moi, j'ai pensé à Kevin Morbey et Andy Schauf. Alors pour les côtés folk de quelques morceaux de l'album, j'ai aussi beaucoup pensé à MGMT pour les arrangements, la richesse des arrangements. Et je vais t'enterrer, Mathieu. J'ai pensé à Arcade Fire sur la période Suburbs. Donc, ce qu'il faisait il y a une grosse dizaine d'années sur les morceaux plus enlevés, plus rock. Avec des orchestrations qui sont quand même très très belles, et le travail sur la mélodie est quand même très intéressant dans cet album-là, avec une variation. Il y a des morceaux folk, il y a des morceaux rock, il y a un morceau au milieu de l'album là qui est très calme. Non, c'est vraiment un très bel album. Et puis son combat pour la culture queer là actuellement aux États-Unis quand même est forcément intéressant, et on peut pas passer à côté. On doit s'y intéresser. Réécoute-le avec toutes ses influences, Mathieu. Peut-être que tu en sortiras grandi.
Ah oui, tu veux vraiment que je réécoute Arcade Fire et MGMT? Je pense que je vais m'en passer.
Allez, je vous propose qu'on réécoute un second extrait de Ezra Furman. Guillaume, c'est I Need Angel que tu as sélectionné. So many red, blue,
ben voilà, c'était la super Ezra Furman et son incroyable voix. On va tout de suite passer au second groupe de cette émission, c'est Rancœur. Rancœur qui vient de sortir un album qui s'appelle Fatalité. Et Mathieu nous a choisi un premier extrait, s'appelle Mars 1906. Rancœur, et c'est Mathieu qui nous en parle.
Oui, alors Rancœur, c'est un trio de Cold Oi de Nancy qui se proclame antiraciste et antifasciste. Autant dire que c'est un a priori plutôt favorable. Cet album, Fatalité, c'est le deuxième album du groupe. Le premier éponyme était sorti en 1922. Et c'est un groupe qui en fait est une évolution de Streets of Rage, qui était formé par le même trio dès 2009. Et les musiciens ont également joué ou jouent encore dans Lorelai ou Brut Minou. Le groupe formé en... Ben si, c'est
Brut
vrai.
Brut Minou.
Brutement. Ben oui, c'est... Le jeu de mots, ça se travaille très très tôt.
Ouais.
Le groupe s'est formé en 2020 et en fait, il ne chôme pas puisqu'il a déjà écrit deux EP en plus des deux albums. Ces deux EP se sont intercalés entre les deux albums. Et en fait, il ne faut pas longtemps pour retrouver dans le son du groupe des accointances évidente avec du Litovsk ou du Syndrome 81 dont Tata Poum avait épluché l'album Prison Imaginaire dans son numéro 34. On a donc droit à de la oi sombre avec des paroles plutôt intéressantes qui parlent du drame de Courrières en 1906, le morceau qu'on vient d'écouter. Alors pour ceux qui n'étaient pas nés en 1906, il y a eu un accident dans une mine à Courrières dans le Pas-de-Calais qui a fait quand même 1099 morts. Il y a des chansons qui parlent des SDF, l'hiver, et plus généralement de vie sans avenir. Vie sans avenir, c'est un peu le cas de tout le monde. Faut pas croire que c'est juste à Nancy. Au passage,
ouais, mais peut-être que Nancy ça aide.
c'est possible. Il y a peut-être un révélateur. Au passage, il faut noter que sur Bandcamp, les paroles sont traduites en anglais. Et toutes les paroles, ce qui explique peut-être également l'audience internationale du groupe qui a beaucoup tourné en Europe ou sur le continent américain, ce qui pour un groupe de oi au chant français n'est pas si évident que ça. Il faut quand même avouer moi je suis pas totalement convaincu ni par la musique ni par les textes. L'une comme les autres sont gentillées mais sont loin d'être transcendants. Alors oui, Héloïse aurait adoré, ça c'est, il y a aucun doute. Pour ma part, je donne la moyenne, mais pas plus.
C'est vrai que c'est Héloïse qui te fait ce cadeau, Guillaume. Guillaume, je vais t'expliquer pourquoi Rancœur c'est bien. Bibi le répétait une fois de plus avant cette émission. Support your local punk scene. Alors pour le traduire, ce que ça veut dire, on pourrait traduire ça par privilégie les circuits courts. Intéresse-toi à ce qui se passe autour de toi. Ce ne sont pas des Australiens lointains vivant dans des cabanes en bambou ou des mecs de Los Angeles qui vivent dans des villas avec piscine. C'est des gars comme toi, c'est ta scène punk, c'est celle qui est en bas de chez toi. D'abord, si tu vas faire tes courses au Carrefour City du boulevard Joffre à Nancy, t'as de fortes chances de croiser le batteur. Si tu adhères à la FCPE, la Fédération des parents d'élèves, tu seras certainement à la même réunion que le bassiste parce qu'il est attaché à l'école publique et qu'il déteste les curés. Si tu vas faire un pique-nique le samedi au parc de la Pépinière, toujours à Nancy, il est probable que le guitariste te mange des chips pas très proprement, pas loin de toi. Et aussi, l'après-midi, tu peux le croiser chez le Roi Merlin au rayon vice ses boulons. Si le Rassemblement National veut faire un meeting à Nancy, tu le croiseras certainement, lui et le groupe dans son ensemble, en train de crier R comme raciste et N comme nazi. Tu peux aussi les retrouver dans un bar, un soir de baston sur la place Tan, parce que tout le monde est bourré et qu'ils aiment bien la bagarre. Si tu discutes avec eux de la destruction de la sidérurgie Lorraine, je suis sûr que tu les trouveras vachement intéressants et que tu auras plein de points communs avec eux. Un peu comme la première fois que t'as vu Bibi et que tu as dit « Mais c'est qui ce guignol avec son t-shirt Édouard Nenet et les princes de Bretagne ?» Et après, tu t'es rendu compte que c'était un intello punk sympa. Ce que je veux te dire, Guillaume, c'est que Rancœur, ils sont à l'image de certains groupes, de centaines de groupes qui existent un peu partout en France, qui font vivre une scène punk locale, qui anime des lieux alternatifs, qui répondent présents quand il y a besoin d'un groupe, d'un concert de soutien aux sans-papiers, aux migrants, aux mal-logés ou à la défense d'un squat local. Voilà, c'est pour ça qu'on aime Rancœur. Après, bon, en vrai, Rancœur, ils font de la hoy, street punk, bon bah faut faire avec hein.
Eh ben, je suis entièrement d'accord avec toi, Pierre, puisque tu parles absolument pas de musique, mais justement de ce qu'ils sont. Et mon Dieu, quel Bibi Boulga infâme que cette écoute. Mais est-ce surprenant ? Pierre le concédait d'ailleurs récemment, je le cite, « De manière générale, disait-il dans Tatapoum 64, dans cette émission, c'est vrai que les Français ne trouvent pas grâce, n'arrivent pas à faire l'unanimité autour de la table. C'est vrai, ajoutait-il, que des fois, tu n'es pas aidé par la médiocrité des groupes. Ce qui me frappe dans cet aveu, ce n'est pas tant que Pierre apporte du poids à mes diatribes antipatriotiques, comme pour le reste, ça lui prendra encore 10 ans pour rattraper le retard qu'il a sur moi, c'est qu'il essaye d'euphémiser un constat pourtant accablant en usant de la locution adverbiale « des fois ». Des fois, il y en aurait des médiocres. Je rigole. Non mais sérieux, ce que vous refusez à reconnaître avec moi est pourtant ce qui fait système. Notre scène nationale n'est pas d'un bon niveau. Vous êtes les « don't look up » de la critique rock. Et Rancœur nous en donne encore une fois la déplorable démonstration. Leur album et le groupe se revendiquent de la scène oi, antiraciste et antifasciste. Ils tiennent la pose sur la photo, des gars qui, on la fait pas, avec leurs bras tatoués et leur typographie cryptique, leur texte ne parle que de colère, de révolte et célèbre l'insurrection, et musicalement, c'est tout l'inverse. Leur musique a la fadeur d'une soupe sans sel, c'est confondant de platitude. S'il n'était le chant avec ses accentuations oi, j'ai l'impression d'écouter un ramassis de rock FM de seconde zone, sans la moindre idée instrumentale, sinon de réciter en bon petit communiant les chapelets éternels des mêmes accords, sans la moindre expression stylistique. Pour un groupe de hoy, c'est étonnant d'entendre si peu de colère, d'énergie et de rage dans leur musique. Elle est insipide de bout en bout, car sans surprise, c'est qu'elle est jouée avec une telle application qu'elle devient quelconque, et ne serait-ce pas là pour des rebelles la pire critique à leur faire.
Guillaume. Arnaud, à ton tour.
Ouais, bah, moi, je voulais m'abstenir. Je savais que l'ordre fait bien les choses, que Guillaume passerait juste avant moi. Donc, il dit à peu près ce que je pense, mais beaucoup mieux que moi. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal à l'écouter, l'album. Ça sent quand même vraiment la naphtaline, ce groupe. C'est tout est vieux. Le titre, le nom du groupe, la typo, la pochette de l'album est absolument horrible. Je sais pas ce que pourraient en penser des gens qui ont traversé la période punk ou Cold Wave comme Bibi qui a dû qui a connu la télé en noir et blanc, mais moi je trouve que c'est fait c'est fait par des jeunes et ça sent le vieux et le daté, et ça n'apporte pas grand chose en effet au punk français. Donc Guillaume, je valide ta chronique.
Cédric, as-tu relevé le gant face à Arnaud et Guillaume?
Oui, moi j'ai bien aimé en fait. Bon, je sais que pour vous l'important c'est l'innovation, hein, comme tous ces connards de directeurs de start-up. C'est votre valeur centrale. Bon, pour moi j'ai plutôt bien aimé, et sans doute pour les raisons inverses de qui vous font détester cet album. Moi j'aime bien justement ce côté oeil avec matinée d'un peu de cold finalement, quoi. Parce que le rythme de la voix penche vers la oeil, les textes sont scandés, les paroles, comme le nom l'indique, versent vers le fatalisme, le noirceur, etc. Vous l'avez bien dit. Mais je trouve que la musique et la voix penchent plutôt vers la cold des années 80. Sans doute peut-être une référence indirecte à Cass Product de Nancy. Et je trouve que plutôt qu'un uppercut, c'est plutôt un direct qui va droit au but ici que propose Rancœur. Moi j'ai bien aimé. Alors j'avais noté la pochette réalisée par Iselbrol, je vais la citer, que je trouve fait toujours un boulot assez remarquable d'ailleurs.
Désolé.
Notamment qui a brodé des maillots du FC Metz. C'est pas tout le monde qui fait ça. Je trouvais que la pochette est très très réussie. Donc avec cette rose enfermée dans des épines, je trouve ça bien fait. Alors c'est vrai qu'on pense à toute la scène française, syndrome, etc. Mais surtout à leur voisin de Metz, Oi Boys, qui avait sorti un excellent album, et je vous le conseille. Vraiment, meilleurs albums de 2021, je trouvais. Évidemment, les textes, vous en avez parlé, c'est du désespoir. Les thématiques sont proches du punk traditionnel, mais aussi parce que peut-être que les choses n'ont pas tellement changé pour les classes populaires urbaines, finalement. C'est pas tout à fait anormal qu'on retrouve un peu les mêmes désespoirs, quoi. Ici, le passé est assumé, intégré, notamment avec la catastrophe dont a parlé Mathieu tout à l'heure, mais aussi sur la part des anges qui revient sur les disparus. Je trouve que c'est pas vraiment de la nostalgie, c'est pas du traditionnalisme, c'est essayer de vivre aussi avec les plaies de l'histoire, qu'elles soient petites ou grandes. Bref, je trouve que les années passent, la misère perdure, les révoltes aussi, et les vieux punks ont encore de beaux jours devant eux, quoi.
Et ben voilà, je vous propose donc d'écouter, et non pas de réécouter parce qu'on ne l'a pas encore écouté, ce morceau de Rancœur, ça s'appelle Partir sans dire adieu.
Et puis vous l'entendrez aussi à la fin de l'année parce qu'il sera dans mon top 5, hein, je vous préviens.
Ben voilà, ça c'était donc Rancœur, et on va tout de suite écouter un groupe. Alors ça s'écrit MH entre parenthèses
A-O-L, et on me dit que ça se prononce Mail. Et donc, Mail vient de sortir un album, ça s'appelle Something Soft, et Cédric nous a sélectionné un premier extrait, poursuite. Crisscross the path ahead. If I run really fast, will I make it to my bed? One, two, three, four. Mail et son nouvel album Something Soft, et c'est Cédric qui nous en parle.
Oui, on se souvient que leur premier album Attachment Styles, sorti il y a 2 ans, avait fait l'unanimité ici dans l'émission. On sait, notamment au travers du titre du premier EP, Gender Studies, que c'est un groupe féministe, queer, intersectionnel, radical, dans la lignée du Riot Girl, qui nous viennent d'Irlande et de Londres. Alors, ce groupe reprend la formule mélange punk, post-punk, bruitisme, avec quand même un gros changement cette fois dans le groupe, qui s'est resserré autour de la batteuse, qui est devenue batteuse-chanteuse, hein, qui a pris tout à fait exemple sur René Binamé, non pas... n'ont pas douté quoi. Toujours avec une basse et une guitare, mais qui a noté donc le départ de l'ancienne chanteuse et de l'ancienne bassiste. Autre changement majeur, un changement de calibre avec le passage sur le label Merge Records, un plus gros label, alors qu'avant elles étaient plutôt autoproduites. Alors cet album présente un peu plus de variété que le précédent. Le premier titre ici, que j'aime vraiment beaucoup, ne reflète pas complètement l'album, qui est plus déstructuré, on entendra sur le prochain titre. On y retrouve la même patte hein, de Mel, phrasé, parlé, martelé, des textes ciselés, forts, rageurs, qui ne laissent rien passer. J'imagine que vous allez y revenir. La structure des titres est souvent celle des montées en puissance. C'est un album à l'ambiance vraiment sombre. On parle aussi souvent de Guy Labend dans cette émission. Ici, l'empreinte est plus nette, hein, puisqu'il partage la même productrice, Jamie Hyland, qui produit aussi Psychotic Monks et Lambrini Girls, donc une jolie carte de visite. Bref, c'est un album où tous les éléments étaient réunis pour proposer un super, super album à mettre dans les mains de tous les mâles blancs de 60 ans, quoi, finalement.
Guillaume.
Oui, bah cet album, c'est un peu comme la collection de capsules de bière de Bibi pour moi, en fait. Je ne peux pas dire que je sois admiratif à les écouter ou à la contempler, mais tous les deux ont quelque chose d'intrigant et d'insolite. Et en cela, ils sont des objets séduisants. Poser sa voix douce et raconter des anecdotes du quotidien en accompagnant musicalement ce récit sous diverses couches légèrement noise à la manière de Sonic Youth pour tendre vers une lente montée, se terminant par une explosion. Voilà, grosso modo, la structure générale des morceaux de cet album, plaisant par le captivant travail sonore qui enveloppe le chant sur chaque morceau. Celui-ci est à la fois tout différent d'un titre à l'autre, mais s'apparentant plus ou moins toujours à une structure proche. Et pour moi, c'est assez remarquable. C'est cette diversité et unicité dans tout à la fois qui fait la grande force du disque. Elle apporte une singularité certaine à cette formation et témoigne de sa capacité à élaborer des compositions riches. Tout simplement. Et techniquement, je le rapprocherais de groupes comme Deeds ou Courting qui possèdent cette qualité de travailler énormément l'enveloppe sonore de leurs morceaux. Cette profusion sonique dans laquelle nous plonge Mail, dans une atmosphère insolite qui leur permet de se distinguer de la profusion de groupes post-punctuels, est vraiment quelque chose d'assez vraiment intéressant. Dans la mesure où la base de leur composition est souvent proche l'une de l'autre, et pourtant le travail sonore fait que ça change constamment. Mais il témoigne en cela d'un vrai talent de ce point de vue. Et pour autant, je n'ai pas totalement été emballé par aucun des morceaux, bien que chacun d'entre eux m'a intrigué. Je ne sais pas comment le dire, mais j'ai eu beau l'écouter plusieurs fois, l'impression d'entendre quelque chose d'original était là, mais je sens que je parvienne totalement à m'enthousiasmer. Donc oui, intriguant, talentueux, mais moins emballant que le premier pour moi.
Arnaud.
Non, tout l'inverse. Moi, je le trouve beaucoup mieux que le premier. On en parle hors micro, mais à part le morceau d'ouverture qui m'avait littéralement scotché, notamment par le charisme de la chanteuse, bon, qui a quitté le navire depuis, mais c'était le morceau Ask For It. Le premier morceau, la poursuite qu'on a écouté, était un peu construit sur la même mécanique, avec une montée de plus en plus rapide jusqu'à une explosion à la fin du morceau. Et on retrouve un peu le bruit et la fureur dont il faisait part dans le premier opus, mais il y avait beaucoup de blancs. En tout cas, moi, je trouvais des difficultés à passer d'un morceau à l'autre sur le premier album, ce qui est absolument pas le cas ici. Alors c'est pas du tout reposant, l'écoute est quand même assez engageante et assez difficile, parce que c'est une tension permanente, ça monte de morceau en morceau jusqu'à Clementine, où la suite est un peu plus apaisée, même si c'est toujours quand même assez déstructuré sur la totalité de l'album, mais on a 7-8 morceaux là qui s'enchaînent et qui sont très très tendus. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est pas tant qu'elle soit à la fois batteuse et chanteuse, c'est le jeu de la batterie, qui est assez simple, hein, mais avec beaucoup de variations sur chacun des morceaux. Le côté métallique de la guitare est vraiment très intéressant, c'est strident, parfois limite inaudible, si on n'a pas franchement l'habitude d'écouter du noise. Mais c'est un très bel album, et je le disais, c'est aussi une réussite par la voix de la chanteuse Constance Skin, qui moi m'a fait penser à Wet Leg, le timbre de voix que un autre groupe de rock mais plus pop, et ce qui est assez dingue, c'est qu'elle arrive à garder ce côté pop sur sa voix tout en ayant une musique totalement noise et déstructurée. Je trouve que c'est ça qui apporte un équilibre qui est assez parfait. Voilà, très bel album.
Mathieu, même enthousiasme ?
Totalement, parce que Mail, c'est un groupe que j'avais découvert sur scène fin 2022, en ouverture de Guy Labande. Et depuis, bah, le groupe a largement évolué, puisque il y a eu un changement de bassiste et une chanteuse qui a lâché l'affaire, et vous l'avez dit, qui c'est au profit de la batteuse. Pour moi, le groupe, il est punk dans l'esprit, post-punk et noise dans le son. Et pour moi, il marche aux côtés de groupes comme Deep Tan ou plus anciennement, et certains vont faire des bons comme ça, mais il y a un petit côté Young Marble Giants. Oui, désolé Guillaume. Avec quand même une indépendance sonique étonnante et largement appréciable. En fait, pendant une demi-heure tout rond, c'est inventif, c'est varié. C'est engagé aussi, ça, vous l'avez bien dit. Et les prestations scéniques sont largement au niveau de cet excellent album.
Excellent album dont on vous propose d'écouter un second extrait. Cédric, tu as sélectionné You Are Temporary, The Internet is Forever. Ça, c'était Mail. Alors, si vous voulez savoir comment ça s'écrit, vous pouvez aller sur le site de Tata Poum. Vous mettez Tata Poum dans un moteur de recherche. Vous aurez toutes les références des groupes qu'on chronique ici. Vous saurez enfin comment ça s'écrit Mail. On va maintenant écouter Iron Man, Iron Mind. J'en étais sûr. Test of the Iron Mind, le titre de leur album. Et Arnaud nous a sélectionné un premier extrait. C'est More Pain.
More pain!
Iron Mind, et c'est Arnaud qui nous en parle.
Tu aurais pu dire Iron Maiden aussi. Hein.
Je crois que t'es enchanté d'avoir nous présenté ce groupe.
Donc ouais, c'est un groupe originaire de Melbourne, donc australien. On n'a jamais chroniqué de hardcore, enfin de ce niveau australien, donc c'est bien de changer un peu de style. C'est un groupe qui a été formé en 2009, donc c'est un vieux groupe, et pour autant c'est seulement leur troisième album. Qui dure 22 minutes. Alors ils prennent leur temps, ils doivent quand même avoir une autre occupation pour manger du kangourou, parce que je ne sais pas comment sinon ils arrivent à en vivre. Alors visiblement une très grosse réputation de ce groupe sur scène, que bah, pour ma part je n'ai jamais vu. Et ils sont signés sur un label Flat Spot Records, et dont le petit logo sur Bandcamp c'est 1000% Hardcore de Baltimore. Donc bah, pour les fans de hardcore ça passe, pour les autres ça va être plus dur, et vous allez pouvoir nous en parler tout à l'heure. La production est signée Otis Benny, c'est le batteur du groupe, accompagné de Taylor Young, apparemment en Australie une figure de la scène hardcore que moi je ne connaissais absolument pas. Je connaissais des groupes de hardcore que j'écoutais il y a très longtemps. Il y a une trentaine d'années, moi j'ai assez vite pensé à un très gros groupe Biohazard que j'aimais bien. Je ne connais pas forcément plus que ça le hardcore, mais comme Guillaume, j'apprécie beaucoup en écouter de temps en temps. On en avait chroniqué un il y a quelques mois, années, j'en sais rien, je sais pas, c'était peut-être l'année dernière. Alors dans une veine totalement différente, c'est Turnstile. Qui apportait beaucoup de nouveautés au style, des sonorités électroniques, un côté surproduit, moi, qui m'avait beaucoup gêné. Et on n'est absolument pas là-dedans dans ce groupe-là, dans Iron Mind, parce qu'ils reprennent vraiment les vieilles casseroles. Ça sonne assez vieux, mais pas faux du tout. Et la production fait que bah ça a passé les décennies, et ça s'écoute toujours aussi bien actuellement. Ce qui fait quand même l'apport de ce groupe là, c'est le chant du chanteur Sam Octingan, où on est limite on pourrait croiser avec du hip hop, hein. Enfin il y a un phrasé qui est moi que j'aime bien, qui fait dodeliner de la tête, puis les variations rythmiques, parce que c'est aussi un peu ça qui fait le style. La batterie change constamment de rythme, et on n'est jamais très loin du métal. Allez-y,
Mathieu.
Oui, alors tu l'as dit, Arnaud, hein, cet album il fait 22-23 minutes, il y a 11 titres, c'est du hardcore australien sur un label américain, et moi j'ai parfois l'impression d'entendre 10 fois le même titre. Alors je dis 10 fois seulement, parce que le 11e titre c'est l'intro, elle n'est pas musicale, mais ce qui ne l'empêche pas de sembler quand même très très longue. Sur Discogs, l'album est étiqueté hard rock. Alors c'est pas gentil, ouais, c'est même un peu méchant.
Mais bon,
il n'empêche que. Ben non, c'est pour ça que même moi j'aurais pas osé le dire. Il n'empêche que jamais j'entends dans cet album des sonorités qui attirent l'oreille. Pour moi, rien ne ressort de là qui pourrait me surprendre ou m'intéresser. Je le trouve plutôt plat, cet album.
Et comme disait Bibi. Les gars, vos trucs d'intello, ça va 5 minutes, faut quand même que ça tabasse un peu. Allez, Bibi, c'est cadeau, au moins ça tabasse. Alors, ça fait pas grand chose d'autre. Hein. Iron Man, c'est du rock de vieux bonhomme.
Mind.
Iron Mind. C'est du rock de vieux bonhomme, 20 ans qu'il tourne, des Australiens dont l'intérêt qu'il suscite pour moi est dans la droite ligne de groupes tels que Midnight Oil ou In Excess. Ça sent la salle de muscu et la prothèse de hanche en titane. Je pense qu'il faut avoir au moins 60 ans pour aimer ça. C'est une musique adaptée aux personnes qui ont des problèmes d'audition, quoi. Ça va fort, il n'y a pas beaucoup de nuances, comme ça tu peux bien tout distinguer. Un son lourd, une voix répétitivement rageuse, un magnifique travail de destruction de toute nuance, un peu comme s'il y avait eu un process de lean management de la délicatesse. Ouais. Et puis bon, avec l'âge, il y a aussi un truc, c'est qu'on perd la mémoire immédiate. Donc 11 fois le même titre, on s'en rend à peine compte, quoi. Bon, moi, j'aime encore un peu la nuance, mais bon, j'ai essayé de convaincre Bibi qui m'a dit la nuance, c'est relou, ça empêche de faire du bruit. La nuance, c'est un truc de sociodémocrate. Donc Guillaume, je te laisse à la sagacité de la réflexion de Bibi pour poursuivre.
Ah bah je vais poursuivre avec tout grand plaisir, parce que moi je me lamente à languir ici sur l'incapacité de nos groupes locaux à assimiler les fondations fondamentaux de la musique rock, demeurant généralement englués dans un punk rock passéiste. Non pas que je déplore qu'ils s'entretiennent dans un style musical passé de mode, mais pour leur incapacité à soutenir les exigences minimum propres au genre qu'ils s'accapare. Ainsi, si le lamentable album supposé Oil de Rancœur a plus à voir avec le concert de fin d'année du Conservatoire de musique de Quimper qu'a bien connu Bibi, qu'aux réminiscences de la scène Oi, c'est tout l'inverse avec le hardcore punk metal des Australiens de Iron Mind. Nos gars de Melbourne ont beau plonger 30 ans en arrière, ils ont parfaitement assimilé les sons et surtout les façons de jouer et le chanter des différents styles de punk hardcore à roulettes qui les ont précédés. Un véritable ravissement, riff énormissime, rupture fracturante, chant massif, leur musique est lourde, d'une lourdeur sidérante, et en mélangeant habilement les différents styles, puisqu'on entend aussi bien des accents métal que des scansions spoken word, Iron Mind remporte aisément la mise, tant sont convaincants de bout en bout les 22 minutes et ses 11 titres joués au taquet, ça fuse et pétarade de partout. À moins d'être totalement rétif au genre comme Cédric, je ne vois pas grand chose à leur reprocher, tant leur partition contient tout ce qu'on est en droit d'attendre lorsqu'on pense à ce type de musique, du bel ouvrage.
Ah bah, écoute, franchement, le meilleur chez Iron Man, c'est quand même la chronique qui est capable d'en faire Guillaume. Je vous propose d'en écouter un second extrait, Test of the Iron Mind, par Iron Mind.
Approche, Chico, attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, c'était Tatapoum, épisode 66. C'était d'ailleurs la dernière émission de la saison. On enregistre à l'aube de l'été, en pleine canicule. On se croirait à la sortie d'un concert. Vous savez, les concerts qu'il y avant qu'il y ait la clim dans les salles. On est suant, on est dégoulinant, on est gluant et on est très content. Ce soir, on retrouvait autour des micros les Don't Look Up de la Critique Rock avec Arnaud, Cédric, Mathieu et Guillaume. Le tout sous le regard navré de nos commissaires politiques en la personne de Marion et le fringant Bibi. Bon courage pour ce qu'il vous reste à supporter de dimanche. Nous, on se retrouve à la rentrée. Ciao !